Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. En ce jour encore, mon cœur est dans la joie de partager ce temps avec vous, ce moment avec vous, au sujet de Halloween. En ce jour du 31 octobre 2016, je me suis levée ce matin profondément après une nuit de prière. Avec cette pensée, ce message en moi, cette réflexion en moi sur ce temps, cette saison encore. Et vraiment, j'ai reçu, conduit par l'esprit, de prendre le temps de travailler là-dessus. Et moi, quand je reçois une instruction aussi claire, je laisse tomber tout ce que j'ai à faire pour ce jour-là. Et je m'occupe de ce message. Et le Saint-Esprit m'a éclairé et m'a conduit dans ce que nous allons partager maintenant. Au sujet de ce temps d'Elohim, où s'apprête aujourd'hui à célébrer vraiment dans le monde entier cette fête que l'on dit fête païenne et autre, oui. Mais de quoi il s'agit vraiment? De quoi s'agit-il? Nous allons prendre le temps de méditation et de partage de la parole là-dessus pour essayer de nous éclairer, de nous encourager, de prier aussi pour ce temps-là en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume et aussi en tant qu'intercesseur. Alléluia! Voilà. Avant de commencer le message vraiment proprement dit, je veux que nous recueillons et que nous élèverons la voix pour célébrer l'éternel Dieu notre Père, que nous prions au nom de notre Seigneur Jésus et que nous appelons le Saint-Esprit à venir nous conduire vraiment, car c'est lui le paraclet, c'est lui l'enseignant, c'est lui qui sait exactement de quoi il s'agit et c'est lui qui sait exactement ce que Père veut et ce que Père veut relâcher. Oh, pour nous faire du bien, pour la restauration de sa création. Amen. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci. Merci pour ce jour merveilleux encore. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ta fidélité, ton amour sans cesse. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde, ta générosité Seigneur Dieu Père Tout-Puissant qui n'a pas de fin. Seigneur, merci pour toutes choses. Tu es Elohim, tu es Jéhovah, Seigneur Dieu de gloire. Tu es Père, notre Père qui est dans les cieux. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et ton nom est Saint, Saint et Saint. Nous te rendons grâce et nous te célébrons encore en ce temps. Oh Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, merci. Merci pour ce jour glorieux, un beau jour que tu as encore fait, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Je te dis particulièrement merci pour la visitation de ce jour et merci pour ce que tu vas nous faire découvrir. Merci pour ce dont tu veux nous nourrir encore aujourd'hui, ô Père éternel. Mon cœur est dans la joie, je me réjouis d'avance parce que je sais, ô Père éternel, qu'avant que tu nous amène, que tu ne parles ton esprit, que tu ne suscites en nous le désir d'agir, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de répondre à tes instructions. Tu as déjà établi les choses. Tes anges nous ont déjà précédés, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire. Et je te dis merci, ô Père éternel. Merci, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui par ce message. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, ô mon paraclet, toi mon ami, je te soumets toute ma volonté, prends toute la conduite de moi-même qui parle au travers de ce micro et de tous mes frères et sœurs qui, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, écouteront un jour ce message, que ce soit une véritable nourriture pour eux, dans le nom puissant de Jésus. Oui, utilise-moi comme temple, exprime-toi toi-même au Saint-Esprit de Dieu, mets tes paroles dans ma bouche, libère la vie de Christ. Alléluia, gloire, gloire, gloire en toutes choses. Merci pour ce temps aussi, c'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Les temps d'Elohim, j'ai intitulé ça comme ça, que comprendre et que faire en tant que chrétien, en tant qu'intercesseur, que comprendre et que faire dans un temps, en un jour comme celui-ci. Dans mes recherches, j'ai découvert que la fête d'Halloween, déjà, elle est quasiment mondiale. Effectivement, vous savez, quand Satan veut agir, vraiment, il laisse rien. Il laisse aucun espace, il est partout. C'est une fête qui est devenue quasiment mondiale et qui date depuis des millénaires et qui a sans cesse, ne cesse d'être refaçonné au goût du jour, amélioré au goût du jour par des groupuscules, etc., qui veulent en quelque sorte l'actualiser. Et c'est une fête qui se déroule sur 7 jours. Vous savez, notre Seigneur a créé, Dieu notre Père a créé le monde en 7 jours. Il a créé le monde, il a créé cette vie en 7 jours. Satan, qui est l'imitateur, chaque fois qu'il veut attaquer cela, il essaye de copier. 3 jours avant, 3 jours après, le jour particulier de la célébration, qui est le 31 octobre. C'est une date particulière qui a été choisie et c'est quasiment la même partout. Un peu quelques jours avant, quelques jours après, peu importe. On reste dans cette phase des 7 jours. Et aujourd'hui, le 31 octobre, c'est le jour clé de la célébration même profonde de la fête d'Halloween. À quoi il correspond vraiment? Vous savez, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est dans Jean 8, 20, 32, ce verset. Et moi, j'ai l'habitude de dire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que nous avons une responsabilité personnelle de chercher la vérité et de la connaître. Parce que le salut est personnel aussi. Cherchons la vérité un peu au travers de ça. Édifions-nous nous-mêmes d'abord. Ensuite, en tant qu'intercesseurs, prions pour déverser la grâce, pour libérer les canaux du flot de l'amour de Dieu sur sa création. Alléluia. D'où vient le mot Halloween d'abord? Halloween, c'est un terme d'origine des peuples du Nord, Irlande, Écosse, anglais. C'est un terme anglais qui dérive de, qui aujourd'hui est prononcé Halloween, et qui vient du mot All Owens Even. All Hallows Even, en anglais, qui veut dire The Even of All Saints Day. Le jour de tous les saints, et plus principalement le soir de tous les saints, parce que la contraction Eve, ça veut dire pour evening, c'est-à-dire que le evening de tous les saints. Le terme Hallows, qui s'écrit Hallow, est une contraction de la langue qui tire sa racine de holy, et nous savons qu'en anglais, esprit veut dire holy. Holy pour dire les esprits. Et cette traduction est devenue le soir consacré à tous les saints, entre guillemets. De cette contraction, hallow et in pour evening, c'est devenu la nuit consacrée, le soir, donc à la tombée du jour, consacrée au Hallow. Voilà d'où sort le nom. Mais en réalité, ça correspond à quoi? C'est une célébration que on continue à faire des Anglais bien avant Jésus-Christ, et on commence à faire les Anglais bien avant Jésus-Christ, parce que ça dérivait particulièrement des traditions celtes. Nous revenons encore à ces traditions celtes, à cette culture celte qui est le fondement même de la j'allais dire de l'exploitation de la création et des hommes qui regardent par terre, qui regardent par le bas et qui ne regardent pas par le haut. C'était des personnes qui regardaient devant eux et qui faisaient des choses avec ce qu'ils ont là et ils ne levaient pas la tête et qui n'avaient aucune dimension de spiritualité élevée, mais qui prenaient tout dans le sol. Certains vont vous dire, mais les Celtes, c'était vraiment des écolos, c'était des personnes qui vivaient avec la nature, ils adoraient la nature, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Soit, ce n'est même pas l'objet aujourd'hui, mais on sait très bien que cette tradition celte avait inculqué beaucoup de choses. Peu importe, de leur temps, ils faisaient avec ce qu'ils devaient faire. Nous allons essayer de comprendre, d'analyser comment est-ce que cette fête était décrite. Et nous allons juste la transporter par rapport à la parole de Dieu et nous allons voir les contradictions qui s'en dégagent. De prime abord, je n'apporte pas de critique. Je veux comprendre et je veux transposer ça par rapport à la parole de Dieu et de voir par rapport à ces pratiques-là, qu'est-ce qui est en contradiction avec ce que m'enseigne la parole de Dieu. Amen. Ne nous faisons pas de préjugés, mais analysons mes frères et sœurs. C'est ce que je voulais que nous fassions faire aujourd'hui pour comprendre. Il est dit ceci. Cette fête d'Halloween dérive des traditions celtes dont je disais, c'est l'origine ancienne de cette fête, que l'on dit que c'est une fête folklorique païenne, et qui, elle, est l'héritage d'une fête très, très païenne, très ancienne, que l'on appelait le Samhain. Le Samhain qui était la célébration des Celtes pour le Nouvel An. Il faut remarquer une chose. Effectivement, cette fête se déroulait à la saison de l'automne. Vous savez que, bien avant, tout était calqué sur les saisons. Même aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les choses sont calquées un peu sur les saisons. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a délibérément établi une date pour que ce soit le début de l'année. C'est la Pâque. Amen. Ça, c'est une instruction particulière de l'Éternel. Avant que Dieu ne donne cette instruction, le jour où on a immolé l'agneau pour délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte, la période, c'est le mois de Tikrit qui était considéré comme la nouvelle année. Et ça correspondait à la saison de l'automne. Et ça correspond aussi dans les Écritures pour ceux qui recherchent la connaissance et recherchent la pensée, les écrits qu'ils lisent beaucoup, ça correspond aussi par rapport au calendrier hébraïque, ça correspond au nouvel an de la création du monde. Dans cette période d'automne, et c'est aussi parmi les saisons, la première des saisons, parce que les saisons commencent en automne, à la fin de l'été, il y a eu la maturité, on a cueilli, il y a eu des récoltes et tout. Et en fait, on rentre dans un nouveau cycle au début de l'automne. Mais pour rentrer dans un nouveau cycle, il y a d'abord le dépérissement. L'ancien doit mourir, doit passer en léthargie au cours de l'hiver et doit renaître au printemps. Il renaît au printemps, il croisse et en été, il mature. Il mature et il est récolté. Et le cycle recommence. Donc nous sommes à cette période et c'est quelque chose, c'est une saison nouvelle. Et c'est le commencement de renouveau de beaucoup de choses. Donc cette date n'est pas choisie au hasard. Cette date n'est pas juste une date folklorique. Ça a un fondement profond avec la création. Ça a un fondement profond avec la vie. Ça a un fondement profond avec le renouvellement de ce qui doit influencer la vie de la création sur la terre, de la création divine sur la terre. Il faut comprendre, il faut voir cette portée-là. Donc, en cette saison, nous sommes dans la période du début de l'automne. Et cette date n'est pas choisie, comme je vous disais, au hasard. Dans cette période de célébration, Je vais vous lire ce qu'un texte par des adeptes de celtiques et par les livres anciens traduisent de ce qu'était cette fête, le pourquoi ils faisaient cette fête, comment est-ce qu'ils pratiquaient ces cérémonies, ce qu'ils attendaient de ces cérémonies. Et nous allons juste les lire et nous allons passer en revue pour pouvoir comprendre les contradictions, pour pouvoir percevoir les aberrations et les confusions qui peuvent s'en dégager. Et nous pourrons, à la lumière de des Écritures, en tirer nous-mêmes, sous l'éclairage du Saint-Esprit, des conclusions, un avis qui soit un avis éclairé et un avis vraiment avisé. Voilà. Moi, j'ai lu ceci au sujet de la fête Samhain, qu'elle se déroulait sous l'autorité des druides. Nous savons que les druides, c'était les prêtres de ces tribus-là, de ces régions. Ils étaient doués d'intelligence, ils étaient doués de prendre, et c'est eux qui fabriquaient, quand on regarde Astérix et les Gaulois, avec l'histoire des druides et la potion magique, etc. Ils avaient tout, ils concentraient tous les pouvoirs qu'on pouvait avoir, la science, la magie, etc. Et ils régnaient et régentaient carrément la vie de tous. C'était les prêtres, ils avaient la connaissance, la population leur faisait confiance et vivait presque souvent sous leur autorité. Voilà, c'était des druides. Et sous la conduite des druides, cette fête se déroulait pendant 7 jours. Le jour même de cette fête de Samhain même était fixé et la fête s'étendait 3 jours avant et 3 jours après. C'est une fête qui devait clôturer une année qui se termine et ouvrir la nouvelle année. Vous comprenez? Et ouvrir la nouvelle année. Et le temps de Samhain, et comme eux-mêmes ils le disent, c'est un temps que eux-mêmes ils le conçoivent, être un temps qu'ils consacrent à l'autre monde. Un temps qu'ils consacrent pas au monde des humains, des vivants, mais qu'ils consacrent au monde des esprits. Et en particulier, et c'est ça qui est particulier, c'est atemporel, c'est une nuit qui n'appartient ni à l'ancien temps, ni au nouveau temps. Ça se trouve comme ça dans l'intermédiaire des mondes. Et c'est une période où tout est mis en branle pour pouvoir amener les hommes à communier avec les gens de l'autre monde. Mais paradoxalement, eux-mêmes, ils expliquent que leur autre monde qu'ils ont choisi de faire, qu'ils ont choisi avec lesquels ils ont choisi de communiquer, c'est le monde des démons. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui expliquent que c'est ce qu'ils font. Le monde des démons, le monde de certains dieux, certains dieux. Quand on va regarder la signification de ces dieux, c'est les dieux du mal, les dieux qui ont le pouvoir de détruire, les dieux qui ont le pouvoir de mal faire, les dieux qui ont le pouvoir d'empêcher les choses bonnes d'arriver. Ce sont ces dieux-là qu'eux-mêmes ils ont choisi d'aller communier avec. Donc, c'est une période que les druides, pendant laquelle les druides conduisent le peuple à aller carrément pactiser, se soumettre volontairement et soumettre toutes les choses à venir, toute l'année qui va venir, au pouvoir du mal. Continuons d'analyser cela. Il continue de décrire, lors de cette nuit de fermeture, les Gaulois, les Celtes, les personnes de cette époque-là avaient l'habitude de pratiquer une cérémonie afin de s'assurer que la nouvelle année à venir se déroulera sereinement. J'ai mis entre guillemets. Par tradition, voilà comment ils faisaient. Par tradition, ce jour-là, ils partaient de chez eux. Vous savez, vous pouvez imaginer, dans des années, 2000 ans, 3000 ans, 2000 ans, même seulement 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous pouvez vous-même imaginer qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas, etc. Le feu était la principale source d'énergie que l'on pouvait avoir. Les maisons vivaient par la présence de ce feu qui avait tellement de pouvoir et d'utilité. Donc, ils partaient de chez eux en éteignant le feu. Ils éteignaient le feu qui brûlait chez eux. Parce que généralement, quand on allume le feu dans ces maisons de campagne, le feu ne s'éteint plus. Le feu peut être étouffé, on ne l'active pas tout le temps, mais on veille à ce que les braises ne s'éteignent pas. On veille à ce que ce feu ne manque pas, pour qu'il puisse être réactivé au moment voulu, pour pouvoir faire à manger, etc. On chauffait la maison. Donc, mais volontairement à ce moment, ils choisissent d'éteindre le feu. Ils éteignent tout le feu dans tout le village et tout le monde s'en va. Ils éteignent donc leur feu dans leur cheminée, dans les foyers, puis ils vont se rassembler hors du village en créant un cercle. Et au milieu de ce cercle, ils font un feu sacré. Donc, ils bâtissent un autel avec du bois, de main, tout ce que vous voulez, et ils allument un feu. Ils allument un feu et autour de ce feu, ils dansent. Autour de ce feu, ils dansent, ils scandent, ils célèbrent, etc. Je continue. Lorsqu'ils font tout cela, nous allons revenir sur les détails après, à la fin, il est écrit ceci. Le feu était aussi étouffé. Ils étouffent le feu pour éviter, disent-ils, l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village. Mais ces esprits maléfiques, c'est eux qui les ont invoqués, c'est eux qui les ont appelés. L'esprit maléfique dans le village, ils étouffent le feu. Il n'est pas dit qu'ils éteignent le feu. Non, il est dit qu'ils étouffent le feu. Ça veut dire que peut-être les flammes qui montaient, etc., vont cesser de monter, mais le brasier est allumé. Et après la cérémonie, chaque foyer, on repartageait les braises de ce feu, recevait des braises encore chaudes, pour que chacun rentre chez lui, dans sa maison, rallumer un feu qui n'allait pas s'éteindre toute l'année, dans les maisons et dans leur esprit. Ils faisaient ces actes pour, soit dit-il, protéger les familles des dangers, des années à venir. Mon frère, ma soeur, voilà ce qui est dit de la cérémonie en ruine. Moi, je n'ai rien inventé. Moi, je ne fais que regarder. Quand je lis, je dis Saint-Esprit de Dieu. Voilà un peuple, voilà des personnes, voilà la création de Dieu, les créatures de Dieu. Voilà comment il pose des actes. Éclaire-moi sur ces actes, la portée de ces actes. Et ce que la parole de Dieu nous dit. Même ce que souvent la simple logique nous dit. Voilà des personnes qui sont à la recherche de la sérénité. Ils vont poser des actes parce que leur but, c'est d'avoir la sérénité, le bien et la tranquillité tout le long de l'année. Mais ils ont tellement peur des forces du mal. Ils reconnaissent tellement le pouvoir des forces du mal. La force terrifiante des démons, des méchants, du malin, du monde obscur, des ténèbres. Ce qui est légitime, oui. Parce que notre ennemi, notre adversaire, le diable, il rôde pour chercher qui détruire, qui dévorer. C'est un voleur, c'est un menteur. Il ne lâche rien. Mais voilà un peuple, ils ont tellement donc dans cette peur qu'ils décident de faire quelque chose. Mais ils se lèvent. Ils optent donc de faire allégeance. Nous allons faire allégeance aux forces du mal. Nous allons leur rendre honneur et gloire pour implorer leur clémence, pour solliciter une année de paix, une trêve quelconque, pour établir un pacte de non-agression de manière à ce qu'ils restent loin de nos villages, de nos maisons. Mais analysons tout simplement. Si ça a vraiment cette incidence-là, il s'adresse à qui? Aux forces du mal. Est-ce que c'est comme ça que la parole de Dieu nous montre que les forces du mal fonctionnent? Comment pouvait-il espérer avoir quelque chose de bien en allant pactiser avec les forces du mal? Première remarque, ils éteignent le feu de cheminée de leur foyer. Par cet acte-là, qui est un acte conscient de chaque père de famille, mère de famille et leurs enfants, vous posez un acte d'obscurité dans votre maison. Vous éteignez le feu, vous plongez la maison dans l'obscurité, dans le froid, vous rendez votre habitat et votre habitat inhospitalier, parce que c'est ça éteindre le feu à ce moment. Car ce feu-là, ce feu du foyer, ce feu de la cheminée, était, même à cette époque, tout est resté constamment allumé, et c'est ça qui était source de chaleur, source d'éclairage dans la maison. Ça permettait de cuire les aliments. Ça permettait de se sentir bien. Et ça permettait de rendre la maison hospitalière, de faire de l'habitacle de la maison vraiment un lieu de repos. Mais ce jour, vous décidez de l'éteindre. Ça veut dire vous coupez net avec tout ça. Ça, c'est la première remarque. Moi, je fais. Ils se rassemblent en cercle autour d'un feu sacré. Mais ce feu sacré, c'est un autel. Souvenons-nous de l'autel qui avait été bâti par Élie, le prophète Élie. Lorsqu'il était en compétition, lorsqu'il était en opposition au prophète de Baal. L'autel de bois. Souvenons-nous que dans la parole de Dieu, il est dit, Dieu dit, que si vous voulez me bâtir un autel, ne mettez rien qui soit fait de main d'homme. Bâtissez-moi un autel fait de par la nature, la création. De terre, de bois, de l'eau, etc. Ils ont bâti donc un autel. Mais à qui ils bâtissent cet autel? Pour qui? Parce que ce n'est pas toujours tout de bâtir un autel. Il faut qu'un autel porte un nom et qu'un autel soit consacré. Un feu sacré est allumé et un autel est élevé. Ils le font sciemment, consciemment. Mais ils le dédient aux forces du mal. Ils le font dans les puissances du mal. Ils font allégeance, ils se prosternent, ils dansent, ils incantent, ils disent des choses, je ne rentre pas dans le détail, mais on imagine tout ce qu'ils disent. Ils reconnaissent ainsi la supériorité et leur pouvoir établi sur eux. Ils admettent que leur sort est entre leurs mains. Les danses, les incantations, les évocations, les cris sont des manifestations, des appels, des invitations à la communion. Ça symbolise une quête de communion, de soumission, d'offrande même. C'est pareil comme on dit, vous voyez même dans le monde aujourd'hui, on dit quand quelqu'un veut aguicher, quand une femme veut aguicher un homme, elle danse, elle se tortue. C'est une offrande de soi. Pour une relation durable. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, en posant ce type d'acte. Et ils disent de leur bouche que nous l'avons élevé à ses yeux. Ce n'est même pas qu'à la nuit, on peut dire qu'à l'époque, oui, ils avaient des dieux, ils pensaient que... Mais non, ils sortent de leur bouche, ce qu'ils décrivent, c'est que c'est le pouvoir maléfique de ces dieux-là, à la limite, qui les font peur, qui font qu'eux, ils préfèrent les avoir pour amis. Et c'est ça qui est incongru. Et à la fin, le troisième aspect, c'est que les hommes communiquent ainsi avec les gens de l'autre monde. Les prêtres, les druides là, qui amenaient les gens à communiquer ainsi avec les esprits, en particulier le monde des esprits mauvais, des méchants, démoniaques. Ils posent des actes qui sont délibérés, réfléchis. Même si le peuple, eux, ne sont pas suffisamment initiés pour comprendre ce qui se passe, les druides, eux, ils le sont. Les druides, eux, ils le sont. Et ils les amènent à invoquer des dieux du mal parce qu'ils sont leurs dévots. Ils sont les dévots de ce Dieu-là. Ils savent très bien là où ils conduisent le peuple. À la fin, là, ce moment dit, le feu était étouffé pour éviter l'instruction des esprits maléfiques dans les villages. Mais écoutez, vous invitez, je viens. Vous les avez invités, ils viennent. Vous leur avez dressé un autel, ils sont là. Après, vous dites non, il faut étouffer le feu. Vous dites étouffer le feu, mais vous n'éteignez pas. Donc, ces druides font croire au peuple que non, vous voyez, ensuite on a éteint. Mais en réalité, le feu n'est pas éteint. Puisqu'ils trouvent encore le moyen de vous distribuer les braises de ce feu pour que vous ameniez une portion, une partie de cet autel dans vos maisons. Mes frères, mes sœurs, que vous ouvrez vous-même vos maisons, vos demeures à ces esprits maléfiques. Vous ouvrez vous-même vos demeures et vous allez les installer dans un endroit où a joué un rôle fondamental dans vos vies. Le feu étouffé n'est pas éteint, de manière à ce qu'il ne reste pas grand-chose, non. C'est un autel qui est encore actif, il n'est pas détruit. Vous n'y avez pas renoncé. Toute la cérémonie qui a été faite, c'est pour nourrir ce feu. Et dans la braise que chacun porte chez lui, ça porte l'essence de ce que vous êtes allé libérer là-bas. Chacun prend comme ça une portion et amène lui le dévot qui lui a été attitré. Et vous-même vous dites, c'est pas de mal. Raisonnons un peu, mes frères et mes sœurs. Vraiment. Parce que toutes ces espèces de cérémonies-là, c'est pas tellement loin de nous. Dans plein de villages d'Afrique, dans plein de villages, même en France, dans plein de cérémonies, c'est à peu près la même chose qui se passe. On élève les autels, et on vous lie avec des choses comme ça. Vous voulez empêcher qu'ils viennent dans les villages. Mais au lieu de tout abandonner en forêt, dans ces lieux-là, renoncer à ces choses, tourner le dos pour vous détacher et leur faire comprendre que leur limite d'évolution est hors de votre village. Vous ramenez quand même chacun une portion encore active des braises dans vos demeures pour allumer votre cheminée. En fait, vous ne faites que bâtir cet autel dans votre maison, votre foyer. Et ainsi, non seulement vous les invitez, mais vous leur donnez la place de décideur. Et vous leur accordez ainsi le droit de régner sur vos vies, sur votre famille, sur votre village, pendant toute l'année. Non mais attendons. Pensons, imaginons même un seul instant, que vous pensez que toutes les cérémonies que vous avez faites, que ce soit les supplications, les cris et tout ce que vous avez machin, ont suffi peut-être pour les amadouer. Le malin, c'est le malin, le méchant est le méchant. Il est désigné comme ça parce que c'est sa nature. Sachez que le malin, pour sévir dans vos vies, il a besoin que vous leur ouvrez la porte. Il a besoin que toi, je veux parler vraiment à titre individuel, il a besoin que tu le laisses entrer. Et même que tu l'invites, c'est encore mieux. Il a besoin que tu sois d'accord pour votre collaboration. Mieux encore, que tu lui sois soumis. Et en ramenant une portion de l'autel que vous leur avez dédié dans vos maisons, vous faites exactement ça. Vous les y invitez. Quelle que soit l'ignorance qu'on peut avoir de l'impact spirituel des actes qui sont posés, le résultat reste le même. La porte est ouverte. L'invitation est exprimée. Elle sera consommée. Parce qu'eux, ils n'attendent que ça. Notre Seigneur Jésus nous dit, il rôde. Et ils cherchent qui les dévorer. Que le peuple, ce peuple suive aveuglément les instructions de leurs druides. Que ces druides soient convaincus qu'ils sont dans le vrai et le bon pour leur village et population ou pas. Cela ne change rien au résultat. Car les actes sont posés. Et ces actes ont des implications et des conséquences résultant des lois et des principes du monde spirituel. Moi, ce qui me surprend dans tout ça, parce que qu'on soit vraiment particulièrement initié, particulièrement enseigné ou pas, il y a quand même, Dieu nous a doté d'intelligence. Il y a quand même un petits bouts de choses qui peuvent nous permettre de nous interroger vraiment. Parce que ce qui est surprenant, c'est qu'ils disent qu'ils vont faire des cérémonies qu'ils adressent aux forces du mal. Démons, vampires, sorciers, responsables des calamités, des choses pas bonnes, etc. Ils le disent ça. Mais les forces du mal, mon frère et ma soeur, ils sont catalogués forces du mal parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent produire que du mal. C'est leur nature, c'est leur essence même. Ils n'ont rien d'autre que le mal. Ils ne savent pas faire du bien. Ça ne fait pas partie de leur pouvoir, faire du bien. Mais tu as beau les supplier, les flatter, faire semblant de les adorer, les respecter, les considérer, tu crois que tu es en train de... En disant, ils peuvent avoir pitié de moi. Et peut-être consentir de ne pas me faire du mal. Vous vous gourrez lamentablement. C'est archi faux. Parce que plus vous allez aller vers eux, plus ils vont se dire, tiens, ils viennent pour qu'on partage. Et vous allez partager quoi? Ce qu'ils ont. Le mal, le malheur. Mais oui, c'est tout ce qu'ils ont à vous donner. Ils ne possèdent rien d'autre. Pitié, ça ne fait pas partie de leur nature. Parce que plus vous allez vers eux, vous avez des attitudes, vous avez... Plus cela s'apparente à leur égard, à leur regard même, comme des actes d'adoration, des appels à la communion, à l'union même, au partage. Ils acceptent parce qu'ils sont demandeurs de ce genre d'actes d'adoration, parce qu'ils savent au fond qu'ils ne méritent pas. C'est la création de Dieu, c'est la créature de Dieu. Ils savent qu'ils ne méritent pas ces actes. Que vous dansez devant eux, que vous vous prosternez devant eux, ils le savent ça. Mais ça leur fait plaisir et ils vont vous donner ce qu'ils ont. Moi, là où je m'interroge, c'est que si vous êtes à la quête du bien, vous voulez faire quelque chose pour avoir les bonnes retombées dans l'année. Vous voulez consacrer votre année aux choses bonnes. Pour vous, pour vos familles, pour vos maisons, vos villages. Mais organiser des cérémonies où vous invitez, où vous baptisez, où vous adorez, où vous vous soumettez, où vous faites allégeance aux forces du bien, puisque c'est le bien que vous recherchez. Plutôt que d'essayer de flatter le mal pour que vraiment, on ne sait jamais, il peut ne pas vous faire du mal. Adorez une fois le faiseur de bien. Invoquez une fois les forces du bien. Baptisez une fois avec les esprits de bien. Ils sont riches en bien. Ils partageront avec vous le bien, puisque c'est leur nature, c'est leur essence. Je ne comprends pas que vous avez baptisé avec le mal. C'est incongru, c'est... Ça n'a pas de sens. C'est une grande confusion. Et c'est ça, l'œuvre du malin. Ça dit d'amener des personnes comme ça à la dérive. Leur faire louper justement le coach. Leur faire louper. Là justement, mettre un grain de sable. Là où vraiment un petit éclairage devrait s'ouvrir. Pour qu'ils se rendent compte d'une chose aussi évidente. Non. Cette grande confusion profite au monde des ténèbres. Les druides sont leurs dévots. Parce qu'ils se prennent pour des dieux terrestres. Et ils sont les véhiculeurs de ce pouvoir maléfique. Ils savent très bien ce qu'il faut. Ils sont investis d'autorité pour maintenir les multitudes dans les ténèbres et le malheur. Dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Pour les amener à poser des actes en apparence anodines, mais qui les perdent, qui les fragilisent. Voilà comment ça se faisait déjà à cette époque. Et on nous dit qu'aujourd'hui, la fête d'Halloween et toutes les autres qui vont venir se greffer autour, sont dans le même esprit. C'est une prolongation de ça. Mais j'ai envie de dire quelque chose avant d'arriver au roi actuel. Ça, c'était l'ancien. Et ces druides ont évolué avant l'arrivée de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. On peut même dire, je peux même rester vraiment stoïque et dire, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, avant que le Père créateur mette son plan de restauration, oui, le monde baignait dans l'obscurité. Je peux même concevoir que, à part le mal et l'obscurité, eux, ils ne voyaient rien. C'est comme tous ces peuples sumériens, etc. Avant que l'Éternel Dieu n'appelle Abraham, on dit qu'Abraham faisait partie de peuples qui, eux, avaient levé un peu la tête, mais qui voyaient, ça s'était arrêté au niveau des étoiles. Eux, ils ne voyaient pas au-delà. Et tout ce qu'ils pouvaient imaginer restait concentré. Mais certains n'avaient même pas levé la tête. Certains regardaient plutôt dans les profondeurs. On peut même dire que, vraiment, quelque part, j'ai même compassion d'eux. J'ai même vraiment compassion d'eux. Parce que le monde était en proie des œuvres des ténèbres. Satan agissait en maître et infestait tout. La façon de voir le monde, c'était que en guerre, en destruction, en sang versé, en conquête de territoire. Regardons dans l'Ancien Testament. Dans l'avilissement, l'esclavage, la détresse des hommes, la beuverie, l'impudicité, Sodome et Gomorre, quoi. C'est vraiment l'image. Avec la cruauté des rois comme Aquila, de Nebuchadnezzar, Xerxès, César et tous les autres. De voir comment ça se passait. Ils voyaient tout en noir et destructeur de mal. Tous les dieux qu'ils adoraient n'étaient capables que de faire du mal. Il n'y avait pas un seul pour être le dieu du bien. Dans le peuple, quelque part, ils pouvaient même ignorer que le bien pouvait exister. Je peux même trouver que c'est la justification peut-être du fait qu'ils ne perçoivent pas qu'ils peuvent plutôt demander le bien plutôt que d'aller flatter le mal, de ne pas trop les frapper. Ils ignoraient qu'il y a un grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Père. Qui les aime, qui les a créés, qui les a mis sur le monde, qui les aime. Et cette ignorance-là a profité à Satan et a facilité son hégémonie dans la domination de leur vie. Je peux voir ça comme ça. Mais notre Seigneur Jésus est venu établir de nouvelles bases. Notre Seigneur Jésus est venu apporter un horizon nouveau. Il est la lumière pour éclairer les ténèbres, la parole pour apporter la connaissance, l'amour pour vaincre le mal, la vie pour ressusciter de la mort, son sang pour laver, pour sanctifier, pour vaincre et triompher de l'infestation du mal, et son nom, son puissant nom, pour exercer le pouvoir de réparer, de restaurer ce qui a été tordu. Le pouvoir de lier et de délier ce que l'ennemi avait déjà détruit. La capacité d'affermir et l'intelligence d'affermir le nouveau royaume, le royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus est venu permettre aux hommes, plutôt que de pactiser avec les démons pour qu'ils ne vous fassent plus de mal, chercher à pactiser directement avec Dieu en passant par moi. Je suis venu payer le prix qu'il faut pour ça. Venez à moi, vous obtiendrez le bien qui est mon essence et qui vient de Père. Et chassez le malin de vos vies. Jésus-Christ est venu pour ça. Il est le maître de temps. Il a établi une séparation entre ces choses. Mais ceux qui ont été en charge de communiquer cela, de porter cette bonne nouvelle, de l'établir de part en part, de nation en nation, et de faire partager cela aux hommes. Jusqu'aujourd'hui, c'est notre mission de faire comprendre cela et de faire partager ça aux hommes. Ils ont choisi à tort dans ces pays d'agir, de fonctionner avec compromission. Plutôt que d'aller à l'opposition et à la confrontation et séparer les choses passer d'avec les choses de Christ, de séparer les choses du malin d'avec les choses de Dieu. Ils ont préféré jouer de compromission. Et ils ont ainsi compromis les bases même de l'Église de notre Seigneur. La parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, depuis le commencement de son processus de restauration avec Moïse, dans le Deutéronome, il donne des instructions de la façon dont les choses vont se faire. Il dit, c'est moi que vous arrivez dans le pays pour établir. Détruisez ce que vous trouvez. Renversez les autels, détruisez-les. Les représentations du malin des autres dieux et établissez-moi. Il n'y a pas de part entre Baal et moi. Il n'y a pas de mélange possible. Il n'y a pas de compromission possible. Dans le livre de Deutéronome, de Deutéronome 12, à son verset 1 et 2, voilà ce qu'il dit. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays que l'Éternel Dieu vous donne en possession. Autrement dit, partout où nous allons pour faire des nations les disciples de Jésus, voilà comment nous devons faire. Nous devons spirituellement détruire tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là avant de m'établir moi. Et moi, je choisirai le lieu où vous irez m'adorer. Mais ceux qui sont arrivés les premiers, toi, à la place de l'église primitive, le catholicisme a trouvé tout simplement moyen d'arriver comme ça dans l'école, trouver des cultes païens comme ceux-là et de s'inféoder à eux, tout simplement. De les copier même. Un semblant, finalement, on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui, non. Et c'est ça qui donne que jusqu'aujourd'hui, dans le temps actuel, Satan continue de se jouer de l'esprit des gens. Car oui, dans le contexte actuel, non seulement il y a, dans les pays anglo-saxons, on va parler d'Halloween, mais dans les pays francophones et tout, on va parler de la fameuse fête de la Toussaint et de la fête des morts, de la célébration des morts, pour qu'ils soient célébrés dans le même contexte et dans le même espace. Un culte des morts. Ça ne sera pas l'objet ici de rentrer dans ces détails des cultes mariales et de culte des morts et de principes de canonisation qui régissent cette fête, tout ça, etc. Ça fera l'objet d'une autre étude. Mais effectivement, ces fêtes, entre guillemets, dites religieuses, oui, parce que c'est vraiment la pure religion, mais c'est même quasiment anti-biblique, viennent encore ouvrir d'autres portes dans la même saison. Et ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est même pas particulier, c'est presque identique. C'est que on entraîne tout le monde, on entraîne les nations entières, on entraîne des villes entières, des pays entiers, des maisons entières, des quartiers entiers. Les parents, les grands-parents traînent les enfants dans cette mouvance d'Halloween, dans cette mouvance de feu élevé, de pactisage avec l'ennemi, même dans l'ignorance ou dans la bêtise, je ne sais même pas. Et ce qui en sort, c'est que le résultat est identique à la célébration que nous venons de décortiquer. Le résultat est identique, il ne faut pas se fourvoyer. Ça peut sembler comme ça pour cette période où tout le monde gesticule, on pose des actes dont on ne comprend pas la portée spirituelle, on amène les enfants à soi, on dépense de l'argent pour pouvoir ouvrir les portes à l'ennemi. C'est exactement comme éteindre le feu de sa cheminée. Et exactement comme aller prendre les brasiers N'en est un pour voilà, venir déposer dans sa vie la vie de ses enfants. Parce que figurez-vous, dans le contexte actuel, c'est dans les années 700 après Jésus-Christ, quand on commençait vraiment à établir l'église de Rome et tout ça, que les papes ont introduit justement cette fête de la Toussaint, qui est une fête qui est censée célébrer les saints. Oui. Parce qu'on a dit qu'Halloween, c'est la fête de tous les saints et de célébrer les saints. Lesquels saints? Quand Jésus parle, quand la parole de Dieu nous parle des saints, on regarde la définition des saints. Et cette célébration se fera à la fin du temps, devant notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on célèbre les saints. Lesquels saints? Les saints que les hommes ont décidé de nommer saints. Des hommes, des humains. Et des morts dont on a décidé de soi-disant canoniser et de rendre saints en ressortant leurs reliques, leurs ossements, leurs crânes et en constituant des sanctuaires où on appelle les autres peuples à venir s'agenouiller, à venir se prosterner. Tous ces actes qui sont anti-bibliques, complètement interdits par l'Éternel dans la Bible. Qu'on le fait sciemment, on pense donc se prosterner devant qui? Dieu ou Satan? On pense le faire devant qui et pour qui? On appelle tous des peuples entiers à se lever pour célébrer un jour des morts, où ils repartent dans ces jours de lamentation. Visiter les cimetières, les lieux de mort. Le corps est déjà devenu poussière. Tu es poussière, tu redeviendras poussière. Quelle âme, quel esprit penses-tu croiser dans ces cimetières où tu vas? Quelle illusion!